Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Ksenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêt pour une aventure enchantée? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast où nous plongeons au cœur d'une question délicate mais essentielle. Votre enfant vous manipule-t-il? Vous découvrirez comment les enfants apprennent à tester les limites et à influencer leurs parents, souvent sans même s'en rendre compte. À la fin de cet épisode, vous aurez des clés pour reconnaître les comportements manipulateurs, comprendre leurs origines et surtout des stratégies pour y répondre de manière constructive et ainsi favoriser le développement d'une relation saine et respectueuse entre vous et votre enfant. Et si ce podcast vous apporte des conseils et des stratégies utiles, n'hésitez pas à me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire, cela m'aide énormément à gagner en visibilité et à soutenir plus de parents dans leur quête d'une parentalité épanouie. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais remercier Zoumea pour son commentaire sur Apple Podcast. Zoumea m'a touchée par ces mots qui sont « Merci Ksenia, merci beaucoup pour tes partages très intéressants. J'ai 3 filles dont une scolarisée en école primaire Montessori, donc tes podcasts me parlent énormément. » À mon tour de vous remercier Zoumea. Après ces mots touchants qui me vont droit au cœur, commençons par comprendre pourquoi nos enfants peuvent parfois nous manipuler. C'est souvent une manière d'explorer leur environnement et de tester les limites. Mais comment distinguer entre une demande légitime et une tentative de manipulation? Nous allons voir cela ensemble. Chaque enfant apprend méthodiquement, en essayant, en expérimentant et en faisant des erreurs. Et c'est par ce même processus que l'enfant apprend que maman et papa ont un point faible. Un enfant manipule ses parents lorsqu'il commence à comprendre le lien entre ses actions et les réactions des adultes. La plupart des protestations des tout-petits se produisent en raison de l'incertitude, de la perturbation ou de l'absence d'une routine quotidienne. Je vais donc développer l'importance de l'ordre pour un enfant de moins de 3 ans et donner des recommandations pour aider à rendre la vie aussi prévisible que possible pour les tout-petits. L'enfant grandit et avec lui, ses besoins évoluent. Il arrive en fait un moment où il veut se promener dans le jardin toute la journée ou se coucher tard devant la télévision. Il ne répond pas aux demandes et ne réagit pas aux réprimandes sévères. Puis maman, en colère, éteint les dessins animés. L'enfant réclame la télécommande pour allumer la télévision. Et à ce moment précis, il ressent clairement de l'agressivité envers ses parents et il veut les frapper. Mais les poings ne sont pas autorisés, comme on le lui dit et répète tous les jours. Il arrive donc, peu à peu, à la bonne conclusion. Pleurer, crier, simuler, une maladie, etc., etc., aide à atteindre son but. Et pour connaître les méthodes les plus efficaces, le jeune testeur les vérifie en essayant et en commettant des erreurs. L'enfant manipule les parents avec soin, mais de manière très obstinée car il a peu d'expérience avec les adultes. Parfois en atteignant le désir et parfois en pleurant des larmes amères parce que le plan a échoué. Notre petit prince explore les limites du comportement adulte. Il vérifie comment il est possible d'agir avec ses parents, quelles actions peuvent les énerver et quelles seront les conséquences. Ainsi, il comprend quelles actions lui permettront d'atteindre son but final et lesquelles sont inefficaces. Les enfants manipulent leurs parents en criant, en pleurant et en se plaignant de leur santé. Les enfants de tout âge savent qu'il est possible de pousser un parent à la rupture émotionnelle et qu'il finira par abandonner en se disant « Ok, c'est plus facile de permettre que de combattre ». Lorsqu'un tout petit est malade, il ne rencontre pas de réelle résistance à ses désirs. Alors, lorsqu'il ne veut pas faire quelque chose, il commence à se plaindre qu'il a mal à la tête ou au ventre. Mais il existe de nombreux autres moyens d'amener les parents à respecter les propres règles des enfants. Ils peuvent par exemple leur faire ressentir de la culpabilité. « Si tu m'aimais, etc., etc., je vous laisse imaginer la suite. Tu aimes mon frère plus que moi. » Et avec de telles phrases, les jeunes manipulateurs forcent les adultes à trouver des excuses et à démontrer leur amour par des indulgences et des cadeaux. Certains font du chantage et montent un parent contre l'autre. Les enfants plus âgés utilisent la menace comme arme. « Eh ben j'irai plus à l'école, j'abandonnerai l'école, je vais quitter la maison, je ne reviendrai plus jamais. » Tous les enfants savent que leurs parents sont responsables d'eux et c'est pourquoi ils profèrent des menaces aussi graves. Il n'est pas difficile de constater que presque toutes les techniques de manipulation utilisées par les enfants sont similaires à celles utilisées par les adultes. Pratiquement toutes les techniques de manipulation sont en fait apprises au sein de la famille. Combien de fois les parents, pour forcer leur enfant à faire ce qu'ils veulent, lui inspirent-ils de la culpabilité ou de la peur, le trompent, ne tiennent pas leurs promesses, cachent la vérité? Combien de fois? Je vais vous donner 7 conseils de psychologue si un enfant manipule ses parents. Conseil numéro 1, examinez attentivement le système de récompense et de punition. S'il n'y a pas d'accord dans la famille, l'enfant apprendra très vite à retourner la situation en sa faveur. Conseil numéro 2, lorsque vous interdisez quelque chose à votre tout-petit, expliquez-lui pourquoi, sinon il percevra une interdiction comme une atteinte à sa propre liberté. Conseil de psy numéro 3, convenez avec votre mari, votre conjoint, votre partenaire que vous déciderez des concessions à faire uniquement en vous concertant ensemble. Sinon, votre fils ou votre fille aura l'occasion d'utiliser votre absence en sa faveur. Par exemple, si maman n'autorise pas les sorties tardives à l'enfant, mais qu'elle n'est pas à la maison en ce moment, l'enfant pourrait très bien dire à son père « Maman m'a donné la permission au téléphone ». Conseil numéro 4, si l'enfant pleure de manière manipulatrice, montrez-lui que ses pratiques manipulatrices ne fonctionnent plus. Il va probablement piquer une colère, mais soyez patient. Après tout, sa vie, elle n'est pas en danger et il peut très bien se passer d'un nouveau jouet. Les larmes se tariront dès qu'il réalisera qu'un autre de ses tours a échoué. Conseil numéro 5, si votre enfant se plaint des dires des autres membres de la famille à son égard ou vous rapporte des paroles blessantes à votre égard, n'encouragez pas la conversation, ne rentrez vraiment pas dans son jeu. En lui demandant plus de détails, vous rentrez volontairement dans son jeu et c'est justement ce qu'il veut. Conseil numéro 6, ne croyez pas les menaces. Un enfant en colère peut déclarer qu'il quittera la maison si on ne l'autorise pas à jouer à un jeu vidéo si longtemps qu'il le souhaite. Dans ce cas, les parents sont souvent effrayés et cèdent. N'oubliez pas que si vous vous conformez à une exigence, vous devrez bientôt vous conformer à d'autres exigences. Si vous avez des règles dans votre famille, ne vous en écartez pas, les jeunes enfants ne sont pas enclins à risquer leur vie. Et dernier conseil, conseil numéro 7, apprenez à votre enfant à négocier. Il doit comprendre qu'on n'arrive à rien en faisant des crises de colère, mais qu'on peut toujours compter sur une conversation constructive si on garde son calme et si on a les bons arguments. C'est une expérience précieuse qui servira à votre enfant tout au long de sa vie, lui apprenant à exprimer ses besoins et à résoudre les conflits de manière saine et respectueuse. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'approche et les stratégies que nous adoptons doivent être adaptées à l'âge et au stade de développement de nos enfants. Ce qui nous amène à un point très important. Il est essentiel de comprendre que la notion de manipulation, telle que nous l'avons explorée, ne s'applique pas aux tout-petits. Avant l'âge de 5 ans, les enfants agissent principalement par instinct et besoin, sans la capacité de préméditer leurs actions dans le but de manipuler les adultes autour d'eux. Cela signifie que lorsque bébé pleure ou manifeste du mécontentement, il exprime un besoin fondamental plutôt qu'une tentative de manipulation consciente. Du coup, comprenons ce qu'est la manipulation. Il s'agit vraiment d'une stratégie consciente de comportement. Pour résumer, lorsqu'un manipulateur a besoin d'obtenir quelque chose, il ne le dit pas explicitement, mais joue un rôle. Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas capables de prévoir, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas contrôler le comportement des autres. Il semblerait en fait que le nom que l'on donne au mauvais comportement d'un enfant ne fasse aucune différence, alors qu'en fait cela fait une grande différence. Lorsque les parents pensent que le tout petit commet délibérément des actes gênants, ils commencent à réagir à son comportement comme s'il s'agissait d'un adulte en face d'eux. Ils l'ignorent, ne font pas délibérément ce que l'enfant leur demande, ils vont rentrer en conflit avec lui. Pendant ce temps, l'enfant, lui, essaye seulement de réaliser ses besoins. C'est juste en fait qu'il ne connaît pas, ne sait pas encore grand-chose. Alors est-il logique d'être offensé quand un enfant d'un an crie ou frappe? Bien sûr que non. Après tout, le besoin ne disparaît pas. Alors que faut-il faire? Là encore, je vais me baser sur la réponse d'un psychologue. Si votre tout-petit a besoin d'attention, il vaut mieux le satisfaire. S'il est méchant parce qu'il est surmené, vous devez lui offrir du repos. De nombreuses options répondent aux besoins de l'enfant. Elles doivent juste être devinées et mises en œuvre de la manière la plus appropriée. Une réaction adéquate des adultes face aux humeurs des enfants devrait être basée sur la compréhension du fait que jusqu'à un certain âge, un enfant ne peut en principe pas manipuler. Le problème peut aussi être dû à la différence de communication entre la grand-mère et la mère de l'enfant. Il est possible que la grand-mère soit plus inquiète pour le bébé que la mère et qu'elle ne puisse pas le quitter une minute. Il se peut que l'appartement où vit l'enfant soit organisé de manière sûre. Les coins sont recouverts de rubans adhésifs souples, les portes sont scellées entre guillemets, enfin elles sont fermées à clé. Le verre et les objets pointus sont retirés, etc., etc. Les parents peuvent donc laisser leur enfant seul dans la pièce pendant un certain temps. Mais lorsque l'enfant rend visite à sa grand-mère, les dangers potentiels sont beaucoup plus importants et par conséquent, la grand-mère s'inquiète. La maman peut aussi utiliser le ressentiment comme un outil d'éducation. L'enfant fait quelque chose qu'elle n'aime pas et en retour, elle ne lui parle pas ou va dans une autre pièce, montrant ainsi qu'elle n'est pas contente. Cela fonctionne parfois, mais il ne faut pas en abuser. Le fait est que le ressentiment à l'égard d'un être cher est un lourd fardeau pour l'enfant et un sentiment d'attente non comblé. L'enfant attendait une chose, de l'être aimé, et cette personne a montré par ses actions qu'il est coupable de ses désirs. L'adulte, d'une manière ou d'une autre, peut réagir au jeu du silence, expliquer les motifs de son action, essayer de corriger quelque chose ou simplement ignorer le message. Les très jeunes enfants sont incapables de saisir l'essence d'un grief. De plus, ils oublient rapidement leurs propres méfaits. Ainsi, la seule conclusion qu'ils tirent lorsqu'ils sont confrontés à l'offense d'un membre de leur famille, c'est « Je suis très mauvais, je ne serai plus aimé ». Lorsqu'un enfant comprend les limites de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, il commence à manipuler habilement ses parents. Un tel comportement est rapide à renforcer, mais il n'est pas facile en fait de s'en débarrasser. Mais ça ne veut pas dire que vous devez laisser tomber. Si vous laissez faire, les petits problèmes d'aujourd'hui peuvent devenir de gros problèmes demain. Les manipulateurs adultes commencent à reprocher à leurs parents d'avoir gâché leur vie, de les avoir inscrits dans une école de physique ou de mathématiques, bon, bref, dans la mauvaise université, d'avoir été licenciés de leur travail, tout est toujours de la faute des parents, et menacent de quitter la maison ou de se suicider si leur demande n'est pas satisfaite. Et voilà, nous arrivons au terme de notre exploration sur la manière dont nos enfants peuvent, consciemment ou non, nous amener à repenser nos réactions et nos limites. Comme nous l'avons vu, comprendre les comportements de nos enfants et y répondre de manière constructive est un voyage complexe mais incroyablement enrichissant. C'est essentiel de ne pas baisser les bras face au défi de la parentalité. Les comportements que nous observons aujourd'hui et la manière dont nous choisissons d'y répondre façonnent les adultes de demain. Rappelez-vous, nos enfants apprennent de nous à chaque instant, ils absorbent nos réactions, nos émotions et nos stratégies pour faire face aux situations difficiles. En leur montrant l'importance de la communication, de la compréhension mutuelle et du respect des limites, nous les équipons pour naviguer dans le monde avec empathie et assurance. Alors prenons un moment pour réfléchir à nos propres comportements. Sommes-nous cohérents dans nos réponses? Encourageons-nous nos enfants à exprimer leurs besoins et leurs émotions de manière saine? Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer notre lien avec nos enfants. Je vous encourage à partager vos expériences, vos réussites et même vos défis dans les commentaires ou en message privé sur Instagram. Votre parcours peut inspirer et aider d'autres parents à naviguer dans leur propre aventure parentale. Et si vous avez trouvé cet épisode utile, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note. Cela aide non seulement à diffuser le message, mais soutient également ma mission d'accompagner les parents et les enfants dans leur développement mutuel. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous a apporté des clés pour comprendre et guider avec bienveillance les petits êtres extraordinaires que sont nos enfants. Restez à l'écoute pour plus de partage et d'inspiration sur Princesse Montessori. Prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt pour de nouvelles aventures.